tous, comme un mercredi découverte avec le primatologue néerlandais Frans de Waal, ami des singes et donc des hommes. Il revient avec un essai sur l'intelligence animale. Après l'empathie, il dresse de nouveaux parallèles entre eux et nous, sans hiérarchie. Il vous raconte, il s'en explique à partir de 12h55 dans la deuxième partie de la Grande Table. Mais d'abord, du théâtre filmé, non, de la vidéo au théâtre, un dispositif scénique de plus en plus prisé, pas toujours bien utilisé. Alors comment valoriser cette nouvelle écriture? Le point de vue de deux metteurs en scène, Anne-Cécile Van Dalem et Cyril Test, nos invités dans cette première partie de la Grande Table jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous sur France Culture et bien sûr sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Une scène et un grand écran qui la surplombent. Pourquoi ajouter de la vidéo au théâtre? Avec nous, le français Cyril Test, qui met actuellement en scène Nobody, d'après Sous la glace de Falk Richter, au théâtre Montfort jusqu'au 8 octobre, avant une tournée jusqu'à l'été. Membre du collectif, alors comment dit-on,
MXM,
qui entend intégrer les nouvelles technologies au travail des acteurs, une manière de repenser l'écriture théâtrale. Bonjour à vous.
Bonjour.
On vient d'entendre votre voix, on va la réentendre. Donc, à vos côtés, l'actrice et metteuse en scène belge Anne-Cécile Van Dalem. Bonjour.
Bonjour.
Avec la compagnie Das Fräulein que vous avez créée, vous reprenez Tristesse avec un S dans le cadre du festival Immersion 2016. Les 7 et 8 octobre, ce sera au Théâtre de Londres à Vélizy. Cette pièce sera ensuite présentée à Paris pour la prochaine saison 2017-2018 avec votre nouvelle création qui est en cours d'écriture, Arctique. Vous revenez d'un long voyage.
Exactement, et je reviens du Groenland.
Et vous n'avez pas pris froid?
Non.
Tout va bien. Bon, ce sera un polar, là encore, avec article sur fond d'anticipation, sur fond, c'est moi qui ai pris froid en fait, sur fond de réchauffement climatique. Vous avez donc fait une belle balade au Groenland. Vous vouliez surtout être, ai-je lu, la première femme curée. Vous avez finalement fait du théâtre?
Oui, puis en fait je me suis rendu compte à un moment donné, la dernière fois je pense que j'ai assisté à des funérailles, qu'il n'y avait finalement pas tant de différence que ça entre la représentation, on va dire, liturgique et puis le théâtre. Ben, y en a plein, mais en même temps, il y a pas mal de croisements aussi.
On commence avec vous, Anne-Cécile Van Dalem. Synopsis au Danemark, la dirigeante du parti du Réveil Populaire retourne sur son île natale, Tristesse, pour enterrer sa mère. Elle retrouve un village à terre, économiquement exsangue, pour le sortir de la crise. Elle a plein de bonnes idées, des idées assez tordues, assez perverses, et l'échafaud d'une sorte de projet de propagande, une pièce sur fond de montée des populismes en Europe, un état de tristesse recréé formellement à la croisée du théâtre et du cinéma. Anne-Cécile Van Dalem, la vidéo sur scène, pour vous, remplit quelle fonction? Une fonction plutôt narrative, c'est-à-dire que vous construisez le récit avec, ou performative, l'idée d'illustrer avec l'image?
Non, je dirais qu'elle est plutôt narrative. Moi, j'aime plutôt parler du langage cinématographique que de la vidéo. Parce qu'en fait, c'est un moyen qui me permet, essentiellement en tout cas dans Tristesse, de dire ce que la parole ne peut pas dire. Donc d'agir à des endroits qui sont là où je sais précisément que je ne veux pas agir à travers les paroles. Donc par exemple ici, dans Tristesse, l'idée, donc, c'est ce film de propagande qui est créé par Martha Hager. Et en fait, par exemple, un des exemples qui est le personnage de Martha Hager, qui est un personnage dont, on va dire, qui tisse des liens de pouvoir qui sont plutôt apparentés donc, au populisme, et qui en fait n'agit pas. C'est-à-dire que le mouvement populiste, en tout cas les grands personnages populistes, s'appuient sur un état du monde, sur une situation qu'ils vont récupérer et sur laquelle ils ne vont finalement quelque part pas agir. Ils vont mettre les gens dans la situation, ils vont retransformer, retraduire cette situation et laisser les gens en fait se détruire entre eux. Et donc par exemple l'amorce, pour moi, est une façon de raconter comment ce personnage, Martha Hager, se débrouille dans une situation où, en fait, elle n'agit pas, où sa seule présence suffit, en fait, à créer cette situation. Et il y a une longue scène comme ça dans Tristesse, qui est une scène d'humiliation, en fait, où on la voit en amorce pendant un quart d'heure. Elle ne se retourne pas, elle n'agit pas, elle ne parle pas. Mais simplement sa présence sur la situation fait agir les autres et crée cette situation d'humiliation. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu raconter autrement qu'avec la caméra.
Mais il y a toujours un côté un peu hypnotique quand même dans l'image et dans la vidéo. Est-ce que pour vous, il n'y a pas de risque que l'image soit plus forte que ce qui se passe sur scène, que la vidéo, quelque part, mange, étouffe la dramaturgie théâtrale ?
Oui, bien sûr, il y a toujours un danger. Je pense que c'est la chose à laquelle on est le plus méfiant quand on commence à travailler, quand on se mêle de travailler avec de la vidéo. Donc évidemment, après, justement, moi, j'aime bien aussi me mettre un peu des cadres précis de travail. Donc c'est aussi s'obliger à faire l'aller-retour entre la vidéo et le plateau et justement devoir se méfier de cette force qu'a la vidéo, de devoir s'en méfier, mais pouvoir jouer avec aussi, parce que je joue beaucoup sur le gros plan, sur vraiment l'esthétique des larmes, enfin, il y a des moments où ça tire très loin là-dedans. Donc c'est en même temps se laisser toujours une sonnette d'alarme qui permet de toujours aussi revérifier que le travail est bien théâtral. En fait, le fait d'y mettre de la vidéo me permet aussi d'être rigoureusement théâtral à d'autres moments.
Des gros plans, il y a effectivement comme une idée de zoom chez l'un comme chez l'autre, comme une manière aussi de montrer parfois le hors-champ de la pièce, la vidéo permet de créer plusieurs dimensions et de multiplier les points de vue. Cyril Test, qu'est-ce que Nobody pour vous? C'est du théâtre filmé? C'est du cinéma sur un plateau? C'est une performance scénique? Filmique?
Filmique, ouais, peut-être. Ouais, c'est un petit peu le terme qu'on a essayé d'identifier, parce que c'est pas vraiment du cinéma, puisque le cinéma, ça a pour... en tout cas, au départ, comme lecture, de sceller du temps. C'est-à-dire que le temps, en tous les cas, est immuable. Il est coincé dans une pellicule ou dans un disque dur, comme on dit. Donc, une fois qu'on a filmé, c'est ce que disait Tarkovsky, c'est le temps qui est scellé. Alors que là, le temps, chez nous, il y a une hémorragie du temps. Donc, ça peut pas être du cinéma, vraiment. C'est du théâtre. Je te rejoins sur l'idée, en tous les cas, qu'il est peut-être des endroits où les mots peuvent laisser place à l'image et que l'image peut parler. Elle doit parler, en tous les cas. J'aime l'idée du hors-champ, voilà, c'est ce que vous disiez. Je crois qu'en fait, c'est peut-être un espace du hors-champ, c'est des objets qui sont hybrides parce que le cinéma, je pense, comme le théâtre, doit pouvoir, en tous les cas aujourd'hui, être à la hauteur des bouleversements esthétiques et, je sais pas, culturels, politiques, de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et c'est vrai que le cinéma doit bouger comme le théâtre, et je crois que c'est une rencontre des deux. Voilà, des deux arts qui se croisent, qui dialoguent en fait ensemble, quoi.
Sans peur justement que l'un ou l'autre, comme on l'évoquait, mange ou étouffe l'autre. Ils peuvent être complémentaires.
Oui, ils sont complémentaires parce qu'ils doivent rester incomplets l'un et l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. L'un doit écouter l'autre et à partir de là, ça peut exister. Mais il n'y a pas de raison que l'un efface l'autre dès lors que le temps est le même pour les deux.
Alors le décor, la vie de bureau, Nobody nous parle de la déshumanisation au travail, de la rudesse des rapports managériaux. Vos personnages sont un peu des no-life dans un monde où le travail c'est la vie et la vie est travail. Un boulot souvent vide de sens, une relation aux autres biaisée par des rapports hiérarchiques avec cette scène très piquante, pour ne pas dire drôle, où l'un des managers raconte comment chacun espionne tout le monde. Mmh. On va écouter une autre scène avec vous, Cyril Test, un extrait de Nobody.
Dans quelques années, tout sera fini. Dans quelques années, je serai un de ces hommes qui portent des pantalons à forme en velours côtelé, disent des conneries dans le couloir en sortant les poubelles. Que plus personne n'écoute parce qu'on se fiche de ce qu'ils racontent. Que tout le monde approuve, en disant oui, en continuant son chemin. Un de ces hommes qui ne dérange pas vraiment. On se fiche qu'ils soient là ou pas. Personne ne les remarque vraiment. Ils se fichent même des lieux où ils traînent ou on les laisse en plan. Ils ne se rendent même pas compte. Ils sont plus occupés à essayer de relever leurs pantalons de retraité au-dessus des hanches jusqu'au nombril. Je veux que quelqu'un m'entende ici. Il faut que je sorte. Il faut que je parte tout de suite d'ici.
Dis-moi. Ça, là, honnêtement, ça. Mmh. Ça, c'est de la merde, ça.
Ça, c'est de l'art, Vincent. Tu peux pas critiquer l'art comme ça.
Ça, c'est de l'art.
Ça, c'est de la vie, mec. Tu vois ce que je veux dire?
Crétin, va. C'est de l'art. Allez, crétin, va avec les autres.
Jean, on t'attend ou pas?
J'arrive.
Je ne suis pas joignable pour le moment. Merci de laisser un message. Je vous rappellerai immédiatement. Hi, this is Jean. I'm not at my desk right now, please. Leave a message and I get back to you as soon as possible. Thank you.
Et le téléphone et l'écran d'ordinateur sont évidemment eux aussi des protagonistes essentiels de cette pièce. Cyril Test, je me rends compte que j'ai même pas fait attention au travail qui a été fait sur le son.
C'est un très gros travail. Ils sont deux dessus.
Alors du coup, on a le son de la vidéo ou le son des sons par micro? Comment
Les
vous
deux.
Avez travaillé?
Les deux. En fait, sur ce projet, il y a donc c'est un binôme entre Thibault Lamy et Neil Bordure, qui est compositeur et chef op-son. Et les deux ont vraiment collaboré, ont dialogué entre comment on creuse dans le plateau des sons qui sont repris par les micros et comment nous, on vient aussi par devant injecter du son ou de la musique.
À partir du texte de Falk Richter, vous avez donc essayé une nouvelle écriture pour un avenir pas si lointain, avec des outils déjà existants. Mmh. Quel propos différent, quel autre propos cet objet hybride, cette performance filmique vous permet-il de développer sur le fond ?
Sur le fond, par rapport au sujet du monde du travail, bah, je pense que c'est un sujet
qui... Qu'est-ce que ça vous permet de construire comme propos différent par rapport au texte duquel vous vous êtes inspiré?
Je reviendrai à ce que tu disais encore une fois. Je pense qu'on se rapproche du sujet aussi parce que c'est l'idée d'observer. Je pense que ce dispositif nous permet d'observer un sujet. Pas de le dénoncer, de le montrer du doigt, mais simplement de pouvoir être en état d'observation. C'est pas une loupe pour autant. C'est vraiment, je dirais, un télescope peut-être qui permet d'observer un sujet qui est très petit et qui pourtant fait autant de ravages aujourd'hui dans notre société. Donc ça, je pense que ça nous permet de l'observer autrement. Parce que ce sont des outils, que ce soit la caméra, que ce soit en tout cas tous les systèmes, dispositifs de micro, ce sont des outils qui sont extrêmement utilisés aujourd'hui, à bon escient, et à la fois aussi qui peuvent être très dangereux. Et l'idée, c'est de montrer comment, en tous les cas, avec ces outils, on peut regarder autrement un sujet, par l'état d'observation. C'est vraiment fondamental, l'observation, pour moi.
Et dans vos fictions, est-ce qu'il y a finalement, pour l'un comme pour l'autre, avec cette utilisation de la vidéo, aussi une envie de réalisme? Est-ce que la vidéo apporte sur les planches cette dimension très réaliste, d'ailleurs spatiale et temporelle, hein, vous l'évoquiez, Cyril Test, c'est aussi ce qu'implique le fait de filmer en temps réel. Mmh. Anne-Cécile?
Oui, bah oui, je pense que ça ajoute aussi, simplement par le fait à la fois du gros plan, de la taille du plan, mais également de la focale qu'on fait ou du focus qu'on va faire sur une situation, permet aussi à des gens de ne pas s'exprimer, de ne pas parler, mais d'être vus et de pouvoir raconter, qui est quelque chose qui est pour moi extrêmement réaliste, en fait, que le théâtre permet très peu, parce que le silence sur un plateau amène autre chose que le silence qui est créé par une situation banale. Et le regard qu'on peut avoir dessus aussi, c'est-à-dire que décider de montrer plutôt la personne qui ne parle pas que la personne qui parle, c'est une interprétation d'une réalité, mais en même temps on est pour moi dans un réalisme qui est extrêmement difficile, en tout cas que j'ai essayé de chercher avant en n'utilisant pas la vidéo, et que je me rends compte que j'arrive beaucoup plus à toucher par là, en utilisant la vidéo, c'est-à-dire en cadrant le regard.
Le film au théâtre, quand d'autres ont amené le théâtre sur grand écran, pas par des captations, mais comme un procédé cinématographique. Vous racontez, Cyril Test, vous êtes imposé une charte d'écriture, comme Lars von Trier avec son Dogme. En 2003, après la sortie de Dogville, lui raconte les procédés qu'il a mis en place.
Je pense que le cœur du cinéma, ce doit être cette joie toute simple, celle de l'enfance. Quand on accepte cette règle du jeu qui dit « ce trait de craie par terre, c'est ma maison ». Or, de nos jours, on ne voit pas beaucoup de traits de craie au cinéma. Des films comme Le Seigneur des Anneaux sont tellement énormes, tellement bourrés d'effets spéciaux, que le spectateur, enfin, en ce qui me concerne, se languit de revenir à cette petite idée basique. Je dessine une ligne et je dis « c'est ma maison ». Il y a beaucoup de choses dans le film qu'on ne peut pas faire au théâtre, comme les gros plans. C'est un mariage entre César. Ceux qui disent que ce n'est pas du cinéma ne me dérangent pas. Je ne suis pas spécialement destiné à faire du cinéma. J'utilise la technique du cinéma que je connais, et j'y introduis d'autres techniques que je crois connaître, celles du théâtre, de la littérature. Je suis juste quelqu'un d'impatient, j'ai envie d'essayer de changer la manière dont on raconte une histoire, dont on traite un personnage. Mais je pense que tous les spectateurs sont intelligents, seulement parfois ils n'ont pas envie de l'être. Je crois en fait que plus le sujet est difficile, plus la forme doit être recherchée. Il y a des spectateurs qui résistent à cela, mais je ne pense pas que ce soit par manque d'intelligence.
Anne-Cécile Vandelem, vous éprouvez la même impatience que Lars von Trier, cette envie de faire bouger les choses, d'essayer des nouvelles choses?
En tout cas, le théâtre est un endroit qui nous permet effectivement de re-questionner systématiquement le code, la manière dont on va raconter une histoire. C'est-à-dire à la fois l'histoire qu'on va raconter, puis comment on va la raconter. Et on a des outils maintenant qui sont géniaux et qui nous permettent évidemment de systématiquement avoir envie, pour peu qu'on soit un peu gourmand, d'avoir envie de les tester, de les essayer, de voir comment est-ce qu'ils peuvent nous prolonger au-delà de nos propres limites.
Il y a pour vous, pour l'un comme pour l'autre, une utilisation très cadrée de l'image, où il y a une part d'improvisation. Vous avez vraiment tout pensé, tout réfléchi aussi à l'avance.
Tout part de l'impro au départ. Et doucement, je dirais qu'on se partitionne. pour arriver à un objet qui est quand même très partitionné au final. Mais je pense que c'est vraiment l'addition des deux. C'est ni trop l'un ni trop l'autre, et à la fois c'est tout l'un et tout l'autre.
Qu'est-ce qui reste de cet objet si on lui enlève l'image et si on lui enlève la scène? C'est-à-dire, est-ce que ce film qui est tourné en direct chaque soir peut être diffusé seul et tenir seul pour vous? Est-ce que c'est là encore deux œuvres complètes?
Alors, ça a été,
et différentes ou pas?
Ça a été prouvé puisque le film a été diffusé, a été en sélection officielle au Festival International du Cinéma Méditerranéen il y a 2 ans.
Que le film?
Oui. Il est parti tout seul, parce qu'en fait, à la base, on l'avait tourné en décor naturel, cette performance. Et je dirais qu'aujourd'hui...
Il a survécu au voyage ou pas?
Il a survécu au voyage. Ce qui est très beau, c'est qu'au moment de la diffusion du film, il y a eu une panne du projecteur. Donc c'est quand même comme quoi cet objet-là n'est pas fait peut-être pour être scellé, quoi. Donc c'est ça qui est beau, c'est un objet théâtral, je crois. Et je trouve ça hallucinant quand même que le problème technique arrive au moment où on diffuse le film dans un cinéma et pas sur un plateau où quand même, là, c'est quand même le lieu de tous les accidents possibles. Donc ça, j'ai trouvé ça très très juste et je pense que c'est très beau de le voir en direct plutôt. Je crois que c'est fait pour vivre en direct parce qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les deux. C'est un seul et même corps.
Mais il y a du montage en direct chez vous, Cyril Test, et chez vous, Anne-Cécile Van Dalem?
Tout est monté en direct, ouais, tout est joué en direct. Donc, donc après, c'est un système assez simple dans le sens où il y a une caméra principale et puis une deuxième caméra qui fait essentiellement des plans de coupe. Et puis on a une caméra A, une caméra B et puis un monteur qui passe, on va dire, du A au B. Par contre, il y a évidemment, c'est une danse qui s'effectue non seulement entre le chef opérateur, les acteurs et le monteur, puisqu'il y a tout ce rythme, en fait, le rythme du montage qui, bien sûr, est cadré. Il n'y a pas d'improvisation, mais en même temps, chaque jour, il faut sentir cette chose-là. Et par exemple, la caméra à l'épaule est un moyen aussi qui m'a permis, et le plan séquence, de garder quand même une liberté dans les scènes. C'est-à-dire que de ne pas trop cadrer, de ne pas fermer trop le cadre et d'avoir aussi un chef opérateur qui comprend la scène et qui sait aussi à quel moment, peut-être ce soir-là, il faut que la caméra arrive juste un petit peu avant ou juste un petit peu après. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se crée en répétition. C'est une relation qui se crée entre les acteurs, le chef opérateur et le monteur.
Est-ce qu'il y a pour vous, on peut casser tous les codes, qu'aujourd'hui par exemple un metteur en scène comme Ivo Vanov fasse entrer la vidéo à la Comédie Française avec les damnés, comme ça se joue actuellement, est-ce qu'on peut tous s'autoriser? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment des lieux particuliers pour ce type d'expérimentation, pour ce type de performance? On ne peut pas forcément mêler un théâtre classique à des écritures presque post-dramatiques.
Bah, de toute façon, le théâtre à la base, son essence est pluridisciplinaire, c'est très opératique le théâtre au départ, si on prend, on monte chez les Grecs. Nous, en France, on a décrété que le théâtre était un espace du texte, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, le théâtre, je pense. Et que, c'est pour ça que je revendique que notre travail, c'est du théâtre avant tout. On peut casser tous les codes. On parlait justement tout à l'heure, et Von Trier en parle dans le dogme, mais c'est comme la nouvelle vague. Je crois qu'il y a des outils aujourd'hui qui évoluent, et ces outils doivent nous permettre d'écrire autrement. Le théâtre n'est pas exempt de se servir de ces outils, bien au contraire, puisque le théâtre est là pour parler de l'humain et de son environnement. Aujourd'hui, l'environnement évolue avec nos outils, donc c'est évident que le théâtre va forcément se modifier lui aussi par l'utilisation qu'on a de ces outils-là. Donc que ce soit Ivo Vanov ou Anne-Cécile ou moi et bien d'autres encore qui sont en train d'explorer ces dispositifs-là, c'est aussi parce que les outils nous le permettent aujourd'hui.
Mais c'est quand même, comme on le disait, un dispositif qui est assez, pas très, mais disons de plus en plus utilisé aujourd'hui, expérimenté. Est-ce qu'il y a des dérives, entre guillemets, possibles pour vous, des travers dans lesquels il ne faut pas tomber dans l'utilisation de la vidéo sur scène? Est-ce que ça peut être mal fait, tout simplement?
Oui.
Ben, ça peut être très mal.
Des noms.
Non, je ne donnerai pas de nom. Il n'y a pas de nom à donner là-dessus, mais je pense que ça peut être dès mal fait, dès lors que... Alors c'est personnel.
Voilà, aller sur le dès lors que, c'est ça qui est intéressant.
Bah disons que pour moi une image, il faut qu'elle nous parle. Ça se travaille l'oreille, une image. C'est quelque chose qui est très rythmique. Au plateau, c'est du temps. On parle de temps tout le temps, c'est du temps. Hein. Je pense que dès lors qu'on utilise la vidéo séparément dans sa temporalité du théâtre, en effet, ça ne peut pas fonctionner. L'image a du sens que si elle prend la temporalité du plateau.
Anne-Cécile Van Dalem,
oui,
dès lors
que... je sais que, en tout cas, le cadre que je me donne et que je me suis systématiquement donné, c'était que de ne pas l'utiliser si elle n'avait pas de fonction. Donc réinterroger systématiquement sa fonction. Et à partir du moment donné où sa fonction est validée et où je sais que je ne peux pas le faire autrement. Et avec l'image, alors voilà, pour moi, il me semble que ça a du sens. Donc.
Et puis il faut travailler tous les jours avec, c'est comme un instrument, c'est-à-dire que je pense comme toi, comme nous, on est 360 jours, peut-être un peu moins, peut-être, à travailler avec ces outils, à explorer, à avoir des studios pour travailler, à répéter avec des chefs-op, enfin, c'est un boulot à plein temps en fait, ces outils-là, ça peut pas s'improviser du jour au lendemain quoi aussi.
Les metteurs en scène franco-belges du coup, hein, Anne-Cécile Van Dalem et Cyril Test sont nos invités jusqu'à midi et demi.
What you got on tap? I'll take two of that. I'm chasing a story I heard when I was here last at the back of the class. You pretended you never got lost. Yeah, at the back of the class, in the back of the bus, sitting out at the dance, always saying no thanks. When they see you around, you look down at the ground, but when they walk away, you wish they'd stay. Never, never mind, bleeding heart, never, never mind your beating heart. But stare at everyone there. It's you versus everyone else. Your outfit's a crime. You feel their cold minds placing you under arrest. And you serve your time drinking all night long, staring at the walls of your jail like home, listening to that song, 'cause it hurts just right, till everything is gone tonight. Never, never mind bleeding heart, bleeding heart. Never mind your bleeding heart. Never, never mind bleeding heart, bleeding heart. Never, never mind your bleeding heart. Never, never mind bleeding heart, bleeding heart. Never, never mind your bleeding heart. Never, never mind bleeding heart, bleeding heart. Never, never mind your bleeding heart.
La pianiste et chanteuse, la russo-américaine Regina Spektor avec son Bleeding Hearts, extrait de son nouvel album Remember Us to Life. France Culture, il est midi 24.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
La tristesse, les tristesses même pour vous Anne-Cécile Van Dalem, la tristesse à la manière de Gilles Deleuze pour qui elle est la diminution de la puissance d'agir. Qu'est-ce qui nous rend incapables d'agir aujourd'hui? On écoute un extrait de la pièce et vous nous dites.
Elle coule.
Quoi?
Elle coule. C'est normal, hein. C'est comme ça, les morts, ça coule.
C'est dégueulasse.
Allez. On peut pas la laisser comme ça.
Ben, on attend Martha. Elle a dit qu'on les touche pas, alors on les touche pas.
Ça, c'est Martha. C'est ça, Martha?
Ben oui, c'est ça, Martha. Ça te pose un problème? Elle dirige le parti le plus important du Danemark. Alors qu'on dit quelque chose, ben je le discute pas.
Et il y a une autorité supérieure.
C'est ça, ouais. Il y a l'autorité de l'île aussi, et c'est moi. Essaye de venir la défendre, et c'est toi qui vas couler.
Mais tu n'es pas tout seul à décider. Nous sommes 8 sur cette île.
7.
La démocratie, tu en fais quoi?
La quoi?
La
Tu veux la voir, ma démocratie? Je veux la voir, moi!
Trouillard! Tout juste pour aller chez les potes d'une nazie!
Personne te demande de rester, toi. Va te faire congeler les ovaires sur le continent plutôt que de nous faire chier tes principales de base.
Stop! Est-ce qu'on peut avoir un peu de respect? Merde!
Anne-Cécile Van Dalem, qu'est-ce qui nous rend incapables d'agir aujourd'hui pour vous?
En tout cas, quand j'ai voulu travailler là-dessus, c'était sur des situations qui nous enferment, qui nous l'art qu'on a de nous raconter qu'en fait il y a jamais d'alternative, c'est-à-dire c'est ou bien, et il y a jamais une autre alternative. Et cet enfermement, ce monde déterminé, en fait, cette situation déterminée, quelque chose où on se dit à un moment donné, bon bah. Puisque de toute façon que j'agisse de telle manière, ou bien ça provoquera telle conséquence, ou bien ça provoquera telle conséquence, parce que de toute façon les jeux sont faits, ça nous empêche d'agir. Après, ici, je me suis reconcentrée vraiment sur ce personnage, en fait sur l'histoire de cette île qui, au départ, vit avec un traumatisme qui est cette fermeture d'abattoir, qui est ce vide économique, ce vide donc du coup de structuration économique, sociale, d'avenir, qui est déjà là depuis longtemps et puis qui va en fait provoquer encore leur perte encore plus loin avec l'arrivée de cette femme. Donc en fait, j'ai essayé de raconter une histoire dont on croit qu'elle commence au moment où l'histoire commence, qui a commencé au final 8 ans plus tôt et qui est totalement déterminée par les décisions de personnes extérieures. Et pour moi, il y a aussi toute la question évidemment du pouvoir là-dedans.
Et le pouvoir, justement, dans le pouvoir, il y a cette idée de l'attristement des peuples. Vous dites que pour vous, c'est une arme politique aujourd'hui.
Oui, parce que oui, je pose la question en tout cas de savoir si finalement cette tristesse ambiante, donc ce sentiment d'impuissance qu'on a tous, n'est pas finalement quelque chose qui est une aubaine absolue, justement pour l'émergence de mouvements tels que les mouvements populistes, qui en fait ne s'appuient que sur un état d'une situation, il ne faut que récupérer cette situation à leur propre fin. En fait, il n'y a aucune idéologie populiste. Si on compare les différents mouvements populistes, il y a énormément de contradictions. La chose qui les rassemble, c'est ça, c'est de profiter d'une situation qui est une situation de désespérance et d'impuissance, et de faire croire aux gens que la seule solution, évidemment, c'est eux qui peuvent l'amener, donc ça amène aussi l'émergence de nouveaux personnages charismatiques, que cette solution n'arrive que par ces personnes-là, et en fait nous met dans une situation de tension si forte qu'elle peut aussi développer des mouvements tels que les guerres civiles. Voilà, comme la manière dont le spectacle se termine en fait. Ce personnage s'en va et ils finissent par s'entretuer.
Et dans une atmosphère crépusculaire, vous racontez donc cette exposition, voire surexposition qui nous consume aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. On existe en grande partie qu'à travers le regard de ce que nous, des autres, mais aussi à travers ce que nous faisons avec désespoir, une luciole, plusieurs, dans cette pièce. Un mot de conclusion avec vous, Cyril Tess. Le théâtre politique doit exposer un système qu'il observe de l'intérieur, avez-vous dit. Le capitalisme vu de l'intérieur en sens nobody reste quand même pour vous une pièce politique?
Oui, j'espère en tous les cas. Dès lors, comme je disais tout à l'heure, que je pense que... qu'est-ce que ça veut dire déjà du théâtre politique? Mais en tous les cas, j'ai envie de le prendre à l'endroit, comme je vous disais tout à l'heure, à l'endroit de l'observation. Il faut observer un système avant de vouloir le dénoncer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est énormément dans le constat et que je pense qu'il faut apporter des visions. Pour apporter des visions, il faut observer. Après, à partir de là, on peut commencer à essayer d'apporter des directions possibles autrement. Voilà. Donc, j'espère.
Allez observer ce qui se passe sur scène avec Cyril Test et toute sa troupe. Plus de 15 acteurs à peu près sur scène dans Nobody, au Théâtre Montfort actuellement jusqu'au 8 octobre. Et allez voir Anne-Cécile Vandalem. Ce sera un petit peu plus tard, les 7 et 8 octobre, au Théâtre de Londres à Vélizy. Et puis un peu partout en France. Merci beaucoup à tous les deux. Toutes les références sur le site de La Grande Table sur franceculture.fr.